France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, votre nouveau rendez-vous sur France Inter. Ce soir, nous nous apprêtons à parler d'un artiste qui a indiscutablement bouleversé les règles de la pop mondiale au début des années 2000. Un gamin blanc de Détroit, fan de Redman et de rimes multisyllabiques qui a bouleversé l'industrie, retourné MTV, choqué les parents et surtout rappé plus vite et plus fort que tout le monde. Ce soir, nous parlons d'Eminem. Pourquoi maintenant ? Parce qu'un documentaire vient de sortir sur Paramount+, il s'appelle Stans, en référence à l'un de ses morceaux les plus cultes, mais aussi à cette communauté ultra dévouée, parfois borderline, qui continue de le vénérer deux décennies plus tard. Et ce documentaire pose une question passionnante, comment un artiste aussi controversé a pu devenir une icône presque intouchable ? Et que dit ce parcours sur nous, sur le public, sur le rap et sur la célébrité aujourd'hui ? Pour en parler, j'ai le plaisir non dissimulé de recevoir Camulo James, journaliste indépendant qu'on peut voir entre autres chez le média Dose. Avec lui, on va revenir sur les multiples visages d'Eminem, le technicien, le provocateur, le survivant, le père de famille, l'icône d'un monde qui n'existe peut-être plus. Eminem, artiste visionnaire ou nostalgique ? Et s'il était les deux à la fois ? On est ensemble pendant une heure pour en parler à La Régulière.
France Inter. Régulière, Mehdi Maizi.
Camulo James, bonjour.
Bonjour.
Je suis très content que tu sois là. On se connaît depuis quelques temps. Et je sais que tu es un grand amateur, expert, on peut le dire, d'Eminem. Dans un autre monde, on a même déjà fait une émission sur Eminem il y a quelques années de ça. Quand est-ce que toi, tu le découvre, comment tu te prends la claque Eminem? C'est quelqu'un effectivement qui, comme je le disais, a vraiment été révélé au début des années 2000, avec pertes et fracas, qui depuis est un nom installé. Toi, comment tu le prends et comment il arrive à t'attraper en tant qu'auditeur de rap?
Moi, je crois que la première fois, je suis un jeune de province, donc on doit être toute fin des années 90, mais vraiment dans les arrêts de jeu des années 90, voire début 2000, les seuls accès que j'ai au rap à l'époque, parce qu'Internet c'est pas encore développé, c'est Skyrock, en fait, qui est la seule radio rap qu'on capte nous en province. Et du coup, je pense que c'est My Name Is qui passe. Le début, c'est un peu compliqué, en fait. C'est pas hyper abordable dès le départ, parce que c'est vraiment, il arrive un peu comme un ovni. Moi, je dois avoir 13 ans, 14 ans, je comprends pas encore parfaitement l'anglais. Les références d'Eminem, je les comprends pas forcément. L'univers tout autour, il me paraît super, super glauque. C'est très américain. Au début, ça parodie beaucoup la société américaine. Mais nous, en France, on n'a pas ça.
On n'a pas toutes les références.
On n'a pas du tout les références. Le premier couplet, je crois, dans My Name Is, il parle de Nine Inch Nails, etc. C'est des choses que, à 13 ans, on ne connaît pas encore forcément.
Justement, tu viens de citer My Name Is.
Ouais.
Écoutons un extrait.
Écoutons My Name Is. My name is
My Name Is, donc une production de Dr. Dre que tu citais, qui est un de ses premiers tubes présents sur le premier album Slim Shady LP. Et ça, oui, c'est vrai que tu découvres aussi presque la culture américaine de l'époque à travers les textes d'Eminem quand tu commences à t'y intéresser.
C'est ça. En fait, là, voilà, il parle donc, je te disais, de Nine Inch Nails. Et après, il s'attaque à tout ce qui marche en ce moment aux États-Unis. Donc, il parle de Britney Spears, il parle des NSYNC, il parle de tous ces boys bands, toute cette pop à l'époque qui règne en haut des charts, etc. Et que lui, il vient balayer et faire passer pour super ringard, en vrai.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand il perce, il est très très critique et dur envers la pop de l'époque, et ça va un peu changer après, mais on y reviendra un peu plus tard. Mais là, on parle d'une époque, My Name Is, quand Eminem commence à devenir une superstar, et qu'il a notamment été, on le sait, repéré par Dr. Dre, producteur californien extrêmement connu. Mais avant ça, Eminem commençait à rapper. Il a commencé à rapper à la fin des années 80 et il a même sorti un premier album en 1996, Infinite. When I declare invasion, there ain't no time to be staring, gazing. I turn the stage into a barren wasteland. I'm infinite. You heard of hell, well, I was sent from it. I went to it surfing and sentenced for murdering instruments. Effectivement, nous, en France, on découvre Eminem avec la radio, avec Dr. Dre derrière, mais il y a eu des années de galère dans l'underground vraiment américain, notamment dans les Clash. C'est-à-dire qu'on parlera évidemment après du film 8 Mile qui lui est consacré, mais il a notamment il a fait des compétitions, notamment les Rap Olympiques en 97. C'est quelqu'un vraiment qui a œuvré dans l'underground et qui n'a pas marché pendant longtemps. Et d'ailleurs, il va percé assez tard finalement. Comment toi tu regardes un petit peu le début de sa carrière où il est très influencé par des rappeurs notamment new-yorkais assez peu connus du grand public?
En fait c'était, on se rend pas compte maintenant avec l'ampleur qu'il a pris, mais c'est vrai qu'il a participé à tout un courant vachement underground, d'une scène très underground, oui. de freestyler, de mecs de battle, etc. qui l'ont, où il a essuyé plusieurs échecs, etc. mais qui lui ont donné une force en freestyle et qui ont après alimenter cet ego qui deviendra du coup Slim Shady et qui deviendra son double maléfique avec lequel il fera passer toutes sortes de messages plus virulents les uns que les autres. Mais on va dire le début, en vrai, moi je m'y intéresse plus tard, du coup quand je fais un petit peu la marche en arrière, c'est quelque chose qui est assez inédit en vrai de vrai, d'avoir un petit blanc comme ça qui se ramène dans toutes les battles de rap et qui est super fort. Ils en parlent dans, il y a le Hip Hop Evolution sur Netflix qui est un super documentaire,
très bon documentaire, absolument,
sur toute l'histoire du rap, où des mecs de Détroit comme Ross da 5'9 etc. témoignent de l'arrivée d'Eminem dans ces ligues de battle là, dans ces ligues de freestyle. En fait, c'était inédit, c'était hyper rare d'avoir un jeune rappeur blanc de Détroit qui vient et qui met à l'amende tout le monde. Parce que il avait déjà cette science de la rime, cette manière de torturer les mots, de faire des assonances, des allitérations qui étaient inédites. Et surtout, il avait ce second degré où il osait déjà, et on en reparlera, je pense qu'on en reparlera d'8 Mile, s'auto-vanner, s'auto-clasher, et surtout détruire l'ennemi en face, qui était l'objectif principal de ce genre de joute verbale.
Ce qui est intéressant, c'est comment en quelques années il a réussi à passer d'un rappeur underground, un parmi tant d'autres, à une superstar qui a réussi à fédérer autour de lui et à avoir des fans, des groupies et même des stans. I meant to write you sooner, but I've just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. Donc ça c'est Stan, un morceau présent sur son deuxième album en major, Marshall Mathers LP. Et Stan c'est maintenant un mot qui est utilisé aux États-Unis, hein, il faut le dire, pour désigner un fan excessif. On appelle ça un Stan. Donc ça vient de ce morceau, qui est un morceau donc en featuring avec Dido. Qu'est-ce qui justifie ou explique pour toi le fanatisme qu'il y a eu assez vite autour d'Eminem? On est passé d'un artiste que peu de gens connaissaient à une superstar. Alors bien sûr, il y a eu du travail, des albums, mais qu'est-ce qui explique cet engouement démesuré?
Moi, je pense que... je m'entends plus que d'une... Je sais pas, pardon. En fait, il correspond... C'est devenu le symbole de toute une jeunesse de l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient leur modèle aux États-Unis, comme on en parlait, donc des Britney Spears, etc. Lui, il arrive, c'est le petit gamin merdeux qui, pour toute une jeunesse blanche, qui commence, je pense, à se prendre le rap en pleine tronche à l'époque où ça explose.
Le fameux côté white trash aussi.
Ouais, en fait, il représente toute cette jeunesse-là que nous, en fait, on comprend pas, on a en France, mais c'est moindre. Alors que eux, là-bas, c'est énorme, on se rend pas compte. Et toute cette jeunesse-là, qui après, je sais pas, des symboles comme Nirvana, tu vois, un Kurt Cobain, etc., qui a représenté ça pour une certaine jeunesse à l'époque, le côté transgressif et tout. Eminem arrive, il arrive avec une équipe derrière, folle, donc Dr. Dre qui est lui en pleine bourre, etc.
Bien sûr.
Et je pense qu'il représente tout ce que, la jeunesse un peu rebelle qui veut flirter avec l'interdit, qui veut transgresser les codes, se sentir un peu rebelle en se disant, ouais, j'écoute du Eminem en secrète dans ma chambre, regarde, il critique Britney Spears, il critique Justin Timberlake, c'est trop drôle. En plus, les clips, regarde, c'est devenu le cool kid le cool kid absolu, en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait que toute cette masse silencieuse qui n'avait pas forcément de symbole, d'un coup, a trouvé son goat,
ouais, son héros.
Son héros.
En France, on a comparé beaucoup de rappeurs à Eminem avec plus ou moins de pertinence.
Clairement.
Mais il y en a un qui a régulièrement confessé avoir beaucoup écouté le rappeur de Détroit, dans sa jeunesse, c'est Vald. Le rappeur d'Aulnay-sous-Bois a sorti l'excellent album Pandemodium cette année, peut-être son meilleur album. On s'écoute immédiatement le morceau UFOV.
VBP CDP, je vais les faire, tant qu'il me reste. TPV. Je sais que faire. DCD. VVV. VVS. Franck S. Franck West. Banlieue Est. Porte F. CDG. Dernier G. Choix G. ECR. RER. BGTF. J'rêvais d'M. J'rêvais d'L. J'avais que un L de mauvaise polia. Que dalle sur mon CV. Je dansais le Mia. Endetté et pété. J'ai rien inventé. Comme ChatGPT. Je me suis défoncé. C'était pas du CBD. Un jour j'ai pété le score. Dis-moi GG. J'enchaîne les images comme si c'est des BD. Souvent c'est crypté. Je paye pas l'IPTV. Je traîne sur FL comme Daniel Balavoine. Je suis un poisson, mon salon un aqua. Trop d'NTKJ vais comme JCVD. J'avais déjà tout dit dans le freestyle CQFD. NQNT, 1, 2, NQNT. 33XEU, CMEC, Agartha, HV, VE, VV5. Ça c'était classe S1, classe A, classe affaire, direction Nouméa, S, Kalos, Emirat, USA. Déjà F, ASB, je fais l'AR au cimetière. RAF, de l'empreinte carbone. Cœur blanc, ça se voit au rayon X. Si je baisse tout, je devrais sortir au rayon X. A à Z, j'ai tout compris, là ça y est. La question c'est être un SS ou ne pas être un SS. Des serpents m'écrivent SSSSS. Je fais gaffe à mon ASS, fuck un SOS. Plus LOL, même si je suis seul dans mon délire, comme ces mecs d'IDF qui crient à l'LOM. C'est pas grave, ils reviennent tous en DM. Tiens, casquette dit LOL. Chut, j'casse des JLOR. La famille c'est de l'or, c'est pas que des LOV. Chut, j'suis dans V pour Vendetta, dans V pour Voldemort. T'es dans tous tes états, j'suis dans V pour Vendetta, j'suis dans V pour Voldemort. J'suis le danger comme Walter White, toi t'es le danger sol mouillé. Comme si je t'embrouillais. BBP, CDP, je vais les faire, je vais les faire. Tant qu'il me reste DPV, je sais que faire. DCD, VVV, VVS, Franck S, Franck West, banlieue Est, porte F, CDG, dernier G. Fin des haricots, HIP, HOP, FRRIP, je les balaye tous. Je fais qu'une rime, tout le monde tombe, c'est la loi Rico. Eux y'a le HIV, HOP, dans leur D2C. Tête de B, t'es amené à disparaître comme les 2B3.
Vald, UFOV, présent sur l'excellent album Pandémonium.
France Inter. Mehdi Maizi, à la régulière.
Nous sommes avec Camulo James pour discuter d'Eminem à l'occasion de la sortie du documentaire Stans sur Paramount+. Eminem, on a commencé à discuter de son début de carrière. Il s'est passé quelque chose d'assez important au milieu des années 2000. C'est aussi une incursion dans la pop culture. Eminem devient un visage reconnaissable, quelqu'un qui va être énormément cité, invité aussi. Et on va commencer à nourrir des fantasmes autour d'Eminem, autour de son parcours, tu l'as un peu dit, hein, le fameux White Trash à Détroit, qui s'illustre lors des battles, dans une communauté majoritairement noire à l'époque. Donc il est, c'est un ovni à ce moment-là, et tout ça va être évidemment compté, narré, un petit peu romancé dans le film Lose Yourself, 8 Mile, pardon, avec l'excellent morceau Lose Yourself sur le film, donc réalisé par Curtis Hanson.
Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up.
On a envie de l'écouter en entier.
C'est trop bien.
J'ai même confondu le titre du film avec le titre du morceau, tellement j'aime ce morceau.
Un Oscar quand même.
Lose Yourself, un Oscar absolument. Qu'est-ce que ça représente ce film-là ? Parce que à ce moment-là, on a eu des films qui parlent de rap, on a eu des films avec des rappeurs qui jouent la comédie, hein, ça a commencé dans presque la fin des années 80, début 90, mais un film sur un rappeur, c'est un événement. Comment tu vois cet événement-là à l'époque ?
Je pense que c'est là où, peut-être en parlant du point de vue français, on a commencé à se prendre l'univers d'Eminem, à mieux du coup identifier d'où il venait et à vraiment adhérer à l'image, à son vécu, à son machin. Enfin, ça a été une claque incroyable. En vrai, de vrai, on connaissait les rappeurs-acteurs, comme tu disais.
Oui. Il y en a eu beaucoup, hein, Ice Cube, Ice-T, Tupac, évidemment. Ouais, enfin, il y en a eu beaucoup.
Mais du coup, c'est la première fois que quelqu'un, je pense, incarne vraiment son propre personnage dans un biopic, se met autant à nu.
Enfin, complètement. Je me souviens, joue la comédie, joue son propre rôle. Même si il joue pas le rôle d'Eminem, il joue le rôle de B-Rabbit, mais qui est largement inspiré d'Eminem.
Très largement, et beaucoup de personnages se reconnaîtront, je pense, dans le film. C'est vraiment une claque énorme, je pense, en France. Ça, moi, je me rappelle qu'à l'époque, on découvre les Clash. On se prend dans toute cette culture dans la tronche.
Complètement, t'as tout à fait raison, c'est vrai.
Où lui, vraiment, il apparaît comme le super-héros de tout ça, où vraiment c'est Mister Indestructible de ce truc, avec forcément ses failles et ses faiblesses, mais qu'il arrive à retourner. Vraiment, ce film, ça a été...
Je pense que ce film, effectivement, a eu un impact assez important. D'ailleurs, Cynic, grand clasheur, racontait aussi comment 8 Mile avait une influence, t'as raison, sur les clashs en France, mais aussi comment ça a remis au goût du jour des vieux morceaux. Lundi, on a reçu Danny Dan et Manu Kay, à un moment, on parlait de Mobb Deep, Shook Ones Part 2, qui est clairement le morceau du film, et c'est un morceau qui est aussi revenu au goût du jour grâce à 8 Mile et à Eminem. Donc il a vraiment aussi eu ce rôle presque de transmission avec un public plus jeune.
C'est fou, c'est le morceau de sa finale, du coup, le Shook Ones Part 2.
Absolument. Quand il se bat contre Papa Doc, qui est joué par Anthony Mackie, qui maintenant joue Captain America. Voilà, la vie est folle.
Le multiverse.
Le vrai multiverse.
Je crois que la demi-finale, c'est une prod de Onyx, etc. Enfin. Ça fait découvrir tout un tas de trucs.
Absolument.
Et c'est vrai que cette culture du clash en France, qui après explosera avec des trucs comme des ligues comme le Rap Contender, etc. La plupart des gens qui participent et qui ont participé à ça ont été largement, je pense à Nekfeu, largement inspirés, tu vois, de Eminem et du choc que ce film a ramené en France, quoi. Avec une BO incroyable, avec Lose Yourself, un Oscar.
C'était intéressant à l'époque parce qu'il y avait deux BO. Il y avait une BO avec des morceaux inédits, comme Lose Yourself, et une BO d'ailleurs sur laquelle on retrouvait des légendes du rap comme Jay-Z, comme Nas, et une BO des morceaux de l'OST, en fait, hein, les morceaux qu'on retrouvait dans le film. Et là, tu retrouvais effectivement, tu avais du Tupac, du Outkast, du Mobb Deep. Enfin, c'était aussi une manière, vraiment, encore une fois, de transmettre aussi sa culture. Et Eminem, qu'on le veuille ou non, même s'il a eu un énorme succès pop, a toujours été un énorme passionné. Mmh. C'est aussi une époque, d'ailleurs, il va commencer à produire d'autres artistes locaux de Détroit, comme Obitrice, mais aussi new-yorkais comme 50 Cent, qui d'ailleurs, lui aussi, après, aura son film. Il va reproduire un petit peu la formule d'Eminem. Et Eminem, il va continuer à être dans la culture pop, il va être énormément parodié ou invité. On s'en aura notamment, par exemple, dans la série Entourage sur HBO. Ou encore, tout récemment, dans un film pour lequel j'ai une affection particulière, Happy Gilmore 2 avec Adam Sandler.
Kidding me right now? You just cost me the hole, dude. Happy Gilmore. Man, I wish my father was here to see this.
Donc ça, c'est une référence au premier Happy Gilmore, donc une comédie devenue culte d'Adam Sandler autour du golf, en fait. Ouais. Comment justement, toi, ça va aussi nous faire une transition avec la suite, tu prends ce moment-là où Eminem passe d'un statut de lyriciste très respecté, pas dire underground, mais en tout cas un rappeur parmi les rappeurs, à une figure pop. Comment tu vois ce moment-là, et notamment un moment où il va commencer aussi à avoir de plus en plus dans sa musique de refrains un peu plus chantés, de choses plus pop. Comment tu vas prendre ce tournant-là, on va dire, à la fin des années 2000?
En fait, c'était, on va dire, une trajectoire qui était inévitable, j'ai l'impression, pour lui. C'est que ça le dépasse à un moment. Ouais. Son succès est trop énorme. La musique dépasse les frontières, ça devient le rappeur, je pense, le plus écouté dans la décennie 2000, on va dire.
Oui, oui.
Donc je pense que c'était inévitable qu'à un moment, ce qu'il critiquait au début, c'est limite comme si le système l'avait happé malgré lui, et du coup, il devient, lui, le symbole d'une nouvelle jeunesse, ça devient, lui, la pop culture. Les clips sont attendus, il fait des références à Superman, etc. Dans pas mal de ses clips et tout ça, la figure de super-héros qu'il mettait en avant dans Just Lose It, Without Me, etc. Donc en vrai, il devient ce symbole malgré lui, et je pense que lui aime, malgré ça aussi, devenir cette espèce de star, cette espèce d'icône. La méchanceté, les méchancetés, les petites piques sont toujours là. Il y a toujours une petite pique pour Michael Jackson, il y a toujours une petite pique pour une Christina Aguilera, etc. Mais c'est bon, en fait, le système l'a eu à un moment. Et...
Est-ce que c'est pas la fameuse phrase d'Alpha One ? Pourquoi les rappeurs deviennent nuls quand ils deviennent riches ? Message à tous les fans d'Eminem, je n'ai pas dit qu'il était nul. C'était juste pour faire une transition.
Je comprends.
Voilà, parce qu'ils sont extrêmement véhéments sur les réseaux. J'ai déjà eu affaire à eux.
C'est vrai.
Oh oui. Tu sais, il suffit d'être un peu nuancé sur Eminem et on se fait attaquer. Mais effectivement, alors c'est intéressant qu'on te retrace un petit peu la carrière. Il y a une première partie des années 2000 qui est couronnée de succès et de très grands albums. L'enchaînement Slim Shady LP, Marshall Mathers LP, Eminem Show. Je pense qu'on peut s'accorder, qu'on soit fan ou pas d'Eminem, pour dire que c'est quand même un run et une trilogie phénoménale. Pour moi, on parle de trois albums classiques. Voilà, je le dis. Et puis après, c'est un peu plus compliqué, notamment à l'aube des années 2000, avec un album qui s'appelle Recovery, et avec notamment un morceau qui va être un tube interplanétaire, mais qui tranche un petit peu avec ce qu'avait l'habitude de faire Eminem. Donc c'est un extrait de Love the Way You Lie, pardon, Eminem et Rihanna, qui à l'époque est encore une jeune pop star, même si elle est déjà extrêmement talentueuse. Mais c'est là où ça tranche justement, où il y a 10 ans avant, il l'aurait critiqué. Il l'aurait peut-être même insulté, parce qu'il était très dur.
Très dur.
Et là, il fait un featuring avec elle. C'est aussi une période où Eminem a une période compliquée. On sait d'addiction. Il a perdu son meilleur ami, Proof. D'ailleurs, qui est joué par Mekhi Pfeiffer dans 8 Mile, qui était aussi un membre de son groupe, D12. Donc, la deuxième partie des années 2000 a été très compliquée pour Eminem psychologiquement. Il avait pris du poids, il en a perdu. Ça a été dur pour lui. Et donc, il revient avec cet album Recovery, qui est un énorme carton, mais qui va marquer une scission entre lui et une partie de son public. Comment tu vois ce moment-là dans sa carrière, un moment qui est un vrai moment de bascule ?
C'est super américain, en fait, dans le storytelling. C'est-à-dire que
il
y a le rock bottom, on va dire, c'est-à-dire le moment...
Rock bottom, qui est un morceau d'Eminem présent sur Slim Shady LP.
Tout à fait. Je me permets. Un très bon morceau.
Un excellent morceau.
Très, très bon morceau. Et où en fait, l'histoire est folle, il tombe pour mieux se relever, en fait. Et c'est son espèce... Recovery, c'est sa renaissance, tu vois. Le mot en soi est chargé de symboles, et c'est très américain, quoi. T'as vécu le côté sombre, il a perdu son meilleur ami, il fait un album Relapse en 2009, je crois, où justement, c'est qu'il y a un peu une période de transition, et un album dont on avait parlé à l'époque, que nous, on aime beaucoup, parce que...
Et que Tyler, the Creator, adore, par exemple. Donc un artiste, d'ailleurs, qu'on va parler un peu après.
Qui a de très bons goûts.
Absolument.
Parce que c'est un album, vraiment, où on est encore dans la partie un peu Slim Shady, un peu sombre, etc. Oui. Où il force sur les accents, mais les flows et les productions sont incroyables. Recovery, c'est vraiment, comme tu disais, le point de rupture où, là, pour le coup, il est pop. Mais il est pop... icon, genre c'est un icône de la pop, mais il est pop aussi beaucoup dans ses sons. Le I'm Not Afraid, tu vois, par exemple, c'est typiquement de la pop américaine. C'est ce que eux ils adorent là-bas, de l'homme qui est tombé et qui se relève tel le phénix et qui regardez, je vais mieux, je prends plus de drogue, je suis sobre. C'est vraiment comme dans les films de super-héros. Ça y est, le moment très dur est passé, et maintenant bam, je brille de mille feux à nouveau. Je perds ma teinture blonde, donc je perds tout ce symbole quand même de tout ce qui était mon alter ego passé, mais qui apportait quand même sa folie à sa musique. Je trouve ça beaucoup plus... il se rapproche, je pense, aussi en vieillissant de son côté pop. Il a quand même cet ADN, je pense, pas country, tu vois. Peut-être que j'en rajoute un peu, mais c'est vrai que les albums après Recovery, il y aura beaucoup de guitare, il y aura beaucoup de refrains très pop. Il va, après, peut-être que je saute des étapes, mais Ed Sheeran, tu vois,
bien sûr,
qui va venir, beaucoup de Rihanna, beaucoup de Skylar Grey.
Beyoncé, il y aura un morceau avec Beyoncé.
Il y a un morceau avec Beyoncé, il y a un morceau avec Alicia Keys aussi, je m'en souvenais plus, mais je suis retombé dessus. Et c'est vrai qu'on passe vraiment sur un... C'est là où on perd beaucoup des fans de la première heure.
Et en même temps, on a droit aussi à des énormes succès. Et puis dans cette période-là, il va aussi donner suite à un classique, je citais de Marshall Mathers LP, il va sortir le Marshall Mathers LP 2, ce qui est toujours risqué, hein, donner une suite à un album extrêmement salué. Il appellera d'ailleurs Rick Rubin, légendaire Rick Rubin, pour bosser avec lui sur l'album. Et il y aura notamment ce fameux morceau qui, moi, me laisse encore perplexe aujourd'hui, mais qui a cartonné, Rap God. Lyrics coming at you with supersonic speed. Summer, lama, duma, lama, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made it rubber. So that anything you say is ticket shanging off of me and it'll glue to you. And devastating, more than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off to be celebrating. Cause I know the way to get them motivated. I make elevating music. You make elevator music. Oh, he's too mean. Donc, Rick Rubin, je l'ai cité, qui est un producteur mythique, un des fondateurs de label Def Jam, qui a travaillé avec énormément de personnes, hein, des Red Hot Chili Peppers, ça, Kanye West, bref, et Eminem. Ce morceau-là, pour moi, c'est un moment très particulier parce que moi, je le dis, je trouve ça assez inaudible, parce qu'on est dans la pure démonstration, et en même temps, c'est aussi un moment où je trouve qu'il même, du coup, devient la parodie de lui-même. Il rappe vite pour rapper vite, mais on n'est plus dans cette espèce de virtuosité qu'il avait avant, qui était beaucoup plus souple, beaucoup plus agile quand il rappait. Comment tu vois ce moment-là ? Moi, je le vois comme un moment un peu triste, parce que d'un côté, ça marche, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus fatigué, comme s'il rejouait un peu le même geste technique, encore et encore.
C'est exactement ça, j'ai l'impression, comme tu disais, il devient une parodie lui-même, il se regarde rapper. C'est-à-dire que ça devient un type beat Eminem. Ça devient une parodie de lui-même, dans le sens où Eminem vient sur un couplet, ok, il rappe veine au front, hyper énervé, hyper rapidement, hyper technique, mais on comprend plus forcément, c'est beaucoup moins compréhensible pour aussi bien côté outre-Atlantique que pour nous, je crois. Nous, on apprécie et on applaudit la performance ici parce qu'on est à plus de 140 mots à la minute, etc. C'est très bien, mais pour une certaine partie de son public, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'est Eminem. Eminem, c'est
ce que disait Seth Gecko, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien.
Exactement. Ouais. On gagne en technique, mais une technique vide de tout, je sais pas, de toute magie, de tout sens. Moi, il devient un robot. J'ai l'impression que la fin de cette décennie 2010-2020, là, beaucoup de technique, mais très peu de magie, très peu de vrais moments où ça devient le rappeur un peu... grincheux, qui va critiquer tout ce qui se fait de nouveau, le mumble rap, etc. Et qui va arriver sur le troisième couplet quand il est invité ou sur ses morceaux à lui, à débiter, sans vraiment nous donner quelque chose qu'on attend de lui, quoi. Et c'est vrai que cette période-là était plutôt compliquée, où on se dit, bon, c'est génial, ça rebondit, etc. Mais qu'est-ce que je retiens de ça ? Elle est où la punchline ? Elle est où la petite pique, le picoté marrant de ce qu'on retrouvait dans son écriture ?
Même si je dois avouer que j'ai un peu d'affection pour le dernier album en date, The Death of Slim, j'ai dit, on pourra en reparler. On va écouter tout de suite un des morceaux les plus galvanisants du rap américain, le morceau ultime à écouter avant sa séance de sport, Camulo, Till I Collapse. C'est Eminem dans sa version Rocky Balboa, avec une prod martiale signée par Eminem lui-même, le légendaire et regretté Ned Dogg au refrain, et un sample du fameux We Will Rock You de Queen. Till I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them. Till the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts, when I'ma stop sending them. Women are caught in webs, spin them in heart venom. Adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, the sizzle, my whistle, this is the plot. Listen up, you pizzles for God, slizzle does not give a fuck. Till the moon comes up, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, perhaps, I'ma rip this shit till my bone. Till the moon comes up, till the lights go out.
till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high is out, I'ma rip this shit till my bones collapse.
Music is like magic, there's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spin, trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can, and when you run it's over, just admit when it's at its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jay, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got.
Till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high turn out, I'ma rip this shit, till my bones collapse.
Eminem, Till I Collapse, un morceau mythique présent sur l'album The Eminem Show.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Je suis toujours avec Camulo James, on parle d'Eminem aujourd'hui hein, à l'occasion de la sortie du documentaire Stans, et quand on parle d'Eminem et de 8 Mile, on pense à cette idée d'une fiction qui raconte la vie d'un rappeur plus ou moins romancé. Et ce n'est pas un cas isolé, d'autres artistes ont eu droit à des œuvres qui mélangent réalité et fiction. Petit tour d'horizon avec trois exemples marquants.
Oh girl, I don't know it all girl, I just wanna take you to a ball, have a ball girl. Valet will call me Mr. McAdams, Rachel they gon' call me Mr. McAdams. I take your name girl fast, it's insanely far-fetched. I ain't playing, why you think I've been rapping to be Mr. McAdams, say yes.
C'est un extrait du morceau Mr. McAdams de Lil Dicky, présent sur la bande originale de la série Dave, une série américaine portée donc par le rappeur. Il y joue son propre rôle, celui d'un mec blanc un peu maladroit qui rêve de devenir une superstar du rap. Le ton est très décalé, souvent absurde, mais derrière l'humour, ça raconte le doute, la mégalomanie et la fragilité d'un artiste en devenir. Une manière moderne et autodérisoire de raconter une ascension qui rappelle, par certains côtés, celle d'Eminem. On peut noter un casting de premier choix avec quelques apparitions mémorables. Au hasard, Drake, son idole, Rick Ross ou encore YG. Et tout de suite, une autre série qui nous avait notamment été recommandée par Danny Dan lors de notre toute première émission, Wu-Tang and American Saga.
On the crime side, the New York Times side, staying alive was no job, had second hands, moms bounced on old man, so then we moved to Shaolin land, a young youth, you're rocking the gold tooth, low goose, only way I begin to G-York was drug loot, and let's start it like this son.
Ici, on change totalement de registre, on est dans une fresque dramatique qui retrace la naissance d'un des plus grands groupes de rap de l'histoire, le Wu-Tang Clan. La série nous plonge dans le New York des années 1990 entre rivalité de rue et passion artistique et montre comment Reza, le chef d'orchestre, a transformé des destins cabossés en une aventure collective historique. C'est une version série télé d'un des mythes fondateurs du rap mondial. Et quand on regarde les épisodes, on est obligé de se poser cette fameuse question: et si le Wu-Tang était le plus grand groupe de rap de tous les temps ? Et on change désormais de registre avec Empire, véritable soap opéra inspiré du monde du hip-hop.
I
Empire raconte l'histoire d'une famille à la tête d'un label de musique entre coups bas, trahison, histoire d'amour et bataille de pouvoir. C'est les feux de l'amour version hip-hop. C'est volontairement exagéré, très grand public, mais ça a marqué la culture en imposant le rap et le R&B dans une série mainstream avec des millions de spectateurs chaque semaine. A noter, au casting, on retrouve Terrence Howard, lui qui avait déjà été à l'affiche du film Hustle and Flow en 2005, qui racontait la vie d'un proxénète qui cherchait à réussir dans le rap, un film d'ailleurs qui avait valu un Oscar au groupe 36 Mafia. Alors, Camulo James, nous sommes ici pour parler d'Eminem.
Parlons d'Eminem.
Eminem, donc le documentaire Stans est disponible sur Paramount+. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'il a été révélé à la fin des années 90. Il a un statut de légende aujourd'hui, incontestable et incontesté d'ailleurs. Quel est son héritage aujourd'hui? Est-ce que tu entends Eminem dans le rap du moment?
Pas dans ce qui fonctionne. Pas dans toute cette vague, parce que par la suite... tu vois, la scène d'Atlanta a pris énormément de place. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup plus d'héritiers de Lil Wayne, par l'affiliation, donc Lil Wayne, Young Thug,
Futur, Gunna...
Exactement, Lil Baby, tout ça. J'ai l'impression que les héritiers d'Eminem, c'est un peu plus compliqué pour eux, parce que c'est pas forcément ce qui marche, ou n'est pas Eminem qui veut, et du coup, cette espèce d'art du flow, de la rime, de la belle assonance, de la belle allitération, c'est pas forcément ce qui va... péter et faire en sorte que les gens percent, enfin que les artistes percent aujourd'hui. Donc je sais qu'on va parler notamment, tu vois, de Logic, de Jid, etc., qui sont des jeunes rappeurs qu'on va estampiller de manière très caricaturale, on va dire des kickers.
Bien sûr.
Des mecs qui ont l'art de la rime, même peut-être un J. Cole, tu vois.
Ouais,
peut-être
ouais.
Un J. Cole pour moi, qui est un rappeur assez technique. Je pense qu'un Kendrick Lamar a quand même pas mal étudier le style d'Eminem à un moment.
Mais il s'en est affranchi.
Ouais. Et chacun, et on parlait tout à l'heure de Tyler, the Creator, pareil, je pense qu'au début, en vrai de vrai, pour ces gens-là qui sont des amoureux de la rime et du rap, Eminem, c'était l'exemple à regarder à l'époque, les freestyles d'Eminem, etc. Cette technicité, c'est une école de la rime dont ils sont tous les élèves, les disciples. Mais ils ont tous développé par la suite des univers très différents.
Oui, on ne peut pas dire que le son Eminem soit spécialement voilà, présent dans le rap. Mais effectivement, il y a plusieurs rappeurs qui s'en sont ou qui s'en inspirent encore. Notamment, tu l'as dit, Logic. I got bitches, I got hoes, I got rare designer clothes. No, we ain't fucking with that. Yeah, there's a time and a place, but if you ain't coming with the illest of raps, call it yourself the greatest alive, then you don't deserve to do that. No, no, oh, no, no, please do not do that. You gon' get smacked, you gon' make Bobby attack. You gon' make Bobby boy snap, you gon' make Bobby boy snap. Bobby boy, fuck rap, bust like an addict with a semi-automatic. Who done had it and he ready for anybody to buck back? Go to catch a vibe, ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even suicide, no, fuck that. Bobby feeling villainous, he killing us. I'm coming for your man and his lady, you need me. On entend clairement l'influence d'Eminem, voilà. Bah, c'est un morceau avec Eminem,
oui,
hein, Homicide.
Bien sûr.
Et c'est aussi le cas chez, tu l'as cité, G.I.D. I'm a crazy man, I had to get into the game again. I'm seeing the lights, I'm looking at the later land. I'm in command like I'm Jaden Daniels, breaking in, can't evade the band. Don't even save the scandal, service candle lit, cause your man a bitch. I tried to understand, but I'm lacking the bandwidth. I'm rocking a hard place, cracking a sandwich. The cards I was handed, it turned me to gambit. It made me the man, but it turned me to man. Saying son of a man, max minimal chances. Shaking a hand, white man, taking a taxi. Suiting the tie, not fly, riding the backseat of a taxi. I feel like Tyrese Maxey, I'm a zone sixer, but I'm hell of an athlete. Doing the rap shit, take a look at the rap sheet. Niggas a random rat shit, hit with a black queen, Angela Bassett. Put a tab of acid on your tongue. I ain't never taking a bomb, but I can put it in the package. You give me a long song to put it in the bag in the back of a trunk. I heard. Il y a quelque chose de ludique quand même à écouter ça. Et c'est aussi présent chez Joyner Lucas. On my bullshit, my back to the wall, turn my back on you, all of you finished. Back to these bullets, it's back to the job, put my Mac out and all of you running. Back on my hood shit, it's back to the pushing, these taxing, I'm actually pumping. Can't fuck with you rappers, you practically sucking. You might have went platinum, but that don't mean nothing. I'm actually buzzing this time. Straight out the kitchen, I told him not up in the Camulo, je t'ai coupé, pardon.
Non,
je veux dire quelque chose.
Non, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous pris cette espèce de mimique de rapper vite, là. C'est vrai que les trois extraits, ils sont assez... assez révélateur sur ça. Et je sais pas s'ils ont pris les meilleurs côtés de l'univers d'Eminem. Ouais. Ils ont pris ce truc un peu à part, genre on va critiquer maintenant ce qui est populaire dans le rap aujourd'hui.
Un côté presque, pardon du terme, presque parfois réactionnaire.
Ouais, un peu vieux con. Ouais. Genre ah bah I got bitches, I got hoes, et tu critiques ça, tu critiques le vocodeur, t'es un peu réfractaire à tout ce qui va être innovation en termes musical. Alors donc oui, autotune, vocodeur, etc.
Il y a un côté gardien du temple maintenant chez Eminem.
C'est ça. Mais je sais pas si c'est vraiment ça que le jeune Eminem aurait voulu laisser comme héritage. Lui, il est très content maintenant d'être invité par ces gens-là et d'arriver et de faire un troisième couplet qui a rien à voir avec ce qu'ont dit les autres dans leur couplet, mais de faire son couplet à rallonge où il fait un petit peu le réac. Mais je suis pas sûr que le I miss the old Shady, celui qui aurait peut-être préféré qu'on soit irrévérencieux, mais d'une autre manière.
Mais ça, c'est une bonne question. Est-ce que le Eminem de 20 ans serait fan du Eminem actuel?
Non, je pense que lui, il pensait partir en rockstar et dans le club des 27.
Oui, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça.
Tu vois, les deux doigts du milieu bien levés, mais je pense qu'il se voyait pas vieillir, et je sais pas s'il se voyait vieillir comme ça.
Ouais.
Clairement pas.
C'est toujours une grande question, hein, vieillir quand on est un artiste, encore plus dans une musique souvent qui est vue comme une musique jeune. C'est une question souvent que les gens ne se posent pas. Quand on commence une carrière dans un travail, on se dit oui, à 30, 40 ans, 50 ans, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. En tant qu'artiste, ça n'existe pas vraiment, ces choses-là. Donc clairement, c'est vrai qu'Eminem, il n'avait pas l'air de penser au futur.
Parce qu'il n'y avait pas de plan de carrière jusqu'à là, ses 50 ans, etc. Ouais. Il ne se voyait pas encore rapper, tuer son alter ego maléfique, etc. Je pense que.
Ce qu'il fait dans le dernier album.
Ce qu'il fait dans le dernier album, mais il improvise beaucoup, je pense, à cette fin de carrière.
Il y a Eminem est évidemment un nom extrêmement connu, reconnu, mais il y a sûrement des gens qui le connaissent, mais qui n'ont jamais vraiment écouté un album. Quel est pour toi le meilleur, ou en tout cas l'album qui te semble être la meilleure porte d'entrée dans l'univers d'Eminem, toi qui les as tous écoutés?
Bah, pour moi, l'univers d'Eminem, c'est vraiment le Marshall Mathers LP, tu vois,
ouais,
qui est vraiment celui
qui sort en 2001, ou 2000.
Qui sort en 2000, je crois, ouais. Et où vraiment, c'est la porte d'entrée ultime, parce qu'il parle de sa jeunesse, de son enfance, des problèmes avec sa mère, oui, notamment. Il parle de ses problèmes d'addiction. En fait, on comprend tout le background d'Eminem, tout son vécu dans cet album-là. Il y a aussi le début du succès, donc il parle déjà de sa relation avec le succès, avec ses addictions, etc. Le côté un peu nocif du succès, c'est super bien rappé. Musicalement, c'est orchestré de main de maître par Dr. Dre.
Par Dr. Dre.
Pour la plupart des sons. Et je veux dire, il y a aussi bien un morceau comme Stan, tu vois, qui est un morceau très grand public, très pop, mais dans lequel il arrive à garder, je pense, son univers, son essence, le côté un peu... Enfin voilà,
subtil et
maléfique par moment, parce que ça se termine quand même pas très bien, ce morceau.
Comme
Stan.
Souvent dans le début de la carrière d'Eminem, les histoires se finissent souvent très mal.
Ouais.
Les histoires d'amour, les histoires de relations entre avec sa mère, avec ses amis, c'est souvent quand même très sombre. D'Eminem au début.
En l'écoutant à l'époque, il y a presque des morceaux qui étaient un peu comme des films d'horreur à la fin.
On peut citer sur le même album le morceau Kim, qui est terrifiant et qui est presque inaudible en tout cas,
qui faisait très peur à l'époque. Ouais. À la fin, il simule presque l'étranglement de sa femme, etc. En hurlant, meurs.
Ouais, tout à fait. C'était un morceau extrêmement violent.
Très irrévérencieux, ça fait extrêmement peur. Mais je veux dire, cet album, c'est vraiment, je pense, la quintessence d'Eminem. Le The Eminem Show, l'album d'après qui sort en 2002.
En 2002, absolument.
Pour moi, ça, c'est vraiment le blockbuster. C'est peut-être celui qui est le plus accessible parce que, encore une fois, les prods sont à la fois très rap, mais super abordable pour une oreille qui écoute pas forcément du rap. Et puis, oui, c'est comme un film Marvel aujourd'hui, quoi. C'est vraiment des invités
Oui, mais incroyables. Un bon film Marvel.
Un bon Marvel.
Ça court pas les rues en
un
ce moment.
Un bon Marvel.
Eminem Show est un très bon Marvel.
Oui, voilà. J'en trouverai pas là, j'en ai pas, mais Endgame, voilà. C'est Avengers Endgame. Mais c'est, voilà. Je pense que c'est ces deux albums-là avec quand même, je pense, une petite préférence pour le Marshall Mathers LP.
Et aujourd'hui, à ton avis, est-ce qu'Eminem a encore quelque chose à apporter? Alors évidemment, il peut encore rapper, il peut encore sortir des bons couplets, mais est-ce qu'il semble encore important, essentiel dans le paysage rap, ou plus vraiment?
C'est toujours bon de l'entendre, comme on disait. En fait, il y a eu cette cassure à la fin des années. Moi, pour moi, le dernier couplet, enfin non, c'est peut-être un peu exagéré, mais je me réfère à 2009, son couplet sur un morceau qui s'appelle Forever, qui est le morceau où il y a Drake, Kanye et Lil Wayne.
Et Lil Wayne, absolument, un casting fou.
Un casting fou où c'est la dernière fois pour moi qu'il fait une performance où il se met avec tout, on va dire, les artistes installés de cette époque et il les démonte tous. Et ça, c'est incroyable. Mais c'était en 2009. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Ouais, 15 ans.
15 ans.
Aujourd'hui...
16.
Il y a 16 ans, bref. Aujourd'hui... je le vois plus. J'aimerais bien le voir associé à une jeune génération, mais différente de celle avec laquelle il a l'habitude de collaborer. Là, on le voit trop. Il est trop avec ce dont on parlait avant. Tu vois, qui sont les Logic, qui sont un peu voilà les gardiens du temple, les réactionnaires, les kickers, etc. Qui là, il se mélangeait peut-être avec je sais pas de pas mal de petits jeunes. Il y a pas mal de petits jeunes rookies qui rappent un petit peu. Griselda, etc. Ouais. Tu vois, avec qui il a déjà un peu collaboré, mais qui sont une autre école de kickage.
Donc Griselda, c'est notamment des rappeurs comme Benny the Butcher, Conway, etc. Et Rob Marciano.
Et je pense, je le vois plus s'associer à des gens comme ça, où j'aimerais bien, tu vois, qui trouve quelqu'un en face qui donne envie, tu vois, un sparring partner qui lui donne envie vraiment de sortir de sa zone de confort pour qu'il apporte vraiment quelque chose.
Tout de suite, on va s'écouter Sugar on My Tongue, le morceau de l'un des héritiers les plus directs d'Eminem, même s'il s'en est affranchi aujourd'hui, Tyler, the Creator, tu le citais. Le morceau est présent sur Don't Tap de Glass, son dernier album sorti pendant l'été, véritable ode à la danse et à la fête.
Like sugar on my tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat, eat. Tell your mama, tell them what. Tell your daddy, tell them what. Tell the bitches that you know what you heard about me. Tell your mama, tell your mama, tell your daddy.
Sugar on my tongue, du sucre sur la langue de Tyler, the Creator, présent sur l'album Don't Tap de Glass.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Alors c'est l'heure des recommandations. Camilo James, on est là, on est avec toi pour discuter d'Eminem, mais là c'est une petite escapade. Je t'ai demandé de réfléchir à une recommandation, moi j'en ai une également, c'est un morceau de rap américain qui était très important pour moi, que j'ai beaucoup écouté lorsque je révisais mon baccalauréat. Donc quelque part vers 2004, car je suis vieux. C'est un morceau qui s'appelle Nunca de Chino XL. Never will your
some nights I feel like I've been forsaken by God. Victimized, plagiarized like Spielberg, that I'm a star. Unzip like Isaac Mizrahi. He who laughs, laughs, laughs best, but never again is the mantra that I cry. I spit like Ninja Merciless, blissless, bliss, high risk, piss, clenched fist, the masochistic sadistics from every verse.
Pour celui de Chino XL qui nous a quitté depuis que j'avais découvert sur un forum à l'époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, et j'ai fait une grande partie de ma culture musicale sur les forums, et je me souviens que j'étais complètement fasciné par Eminem à l'époque, donc je l'ai découvert via Eminem et que je cherchais des techniciens, et quelqu'un avait dû citer le nom de Chino XL, et j'avais été complètement abasourdi par ce morceau qui est vraiment une démonstration de technique complètement folle. Je sais pas si c'est un artiste que t'as un peu écouté. Moi je le connaissais pas tant que ça, je le connaissais surtout parce qu'il avait été cité par Tupac sur le morceau Hit 'Em Up, qui est un morceau très violent où Tupac insultait toute la côte New York, tout New York en fait, et Chino XL avait une insulte pour lui. Et puis après j'ai découvert sa carrière un peu après grâce au forum. Je sais pas si toi ça t'a parlé ou pas plus que ça.
Non, en vrai je connaissais de nom, mais c'est vrai que je m'étais jamais vraiment penché dessus, mais là en quelques secondes tu m'as hypé. C'est une très belle phase B, enfin une très belle instru.
Ouais, il a un très bon album qui s'appelle Here to Save You All, là pour tous vous sauver. Et tu as aussi une recommandation, on passe en France avec Sau la Lune.
Et moi j'ai jamais parlé au bleu, et moi j'ai jamais parlé à la juge. Ta petite salope t'as parlé aux deux, que des traites depuis le temps on est rodé. C'est karma pour les plans bleus. Moi j'ai le jaune qui rentre B. Détrompe-toi, c'est pas un jeu. Et un lion ça peut se faire couler par des renards. Je descends du ciel, fais un vœu. Je vais en faire une expo comme Mona. Fissure, je suis cassé en deux. Je vais en faire une expo comme Mona Ali. Le quartier sera encore en deuil. Je suis rattaché, j'attends mon rêve.
Alors, qui est Sau la Lune? Et pourquoi Sau la Lune, Camilo James?
Sau la Lune, c'est un jeune rappeur originaire de Lyon, si je ne m'abuse, qui sort des projets, on va dire, depuis la fin des années 2010, mais qui a été beaucoup, enfin très actif au post-confinement, donc on va dire 2020, etc. A sorti une série de petits EP qui sont très intéressants, des 5, des 4, 5 titres. Et moi, je pense que c'est un des rappeurs de ce qu'on appelle la nouvelle génération qui m'a le plus marqué ces dernières années. Je trouve
il y a une voix très particulière.
Il y a une empreinte
aussi
vocale qui c'est assez segmentant. C'est soit on adore, soit on a beaucoup de mal à rentrer. Mais quand on rentre, on a vraiment, pour ceux qui vont découvrir là, qui vont aimer, il y a vraiment beaucoup de choses à écouter. Oui. Il y a beaucoup de matière.
Il était très productif.
Et c'est voilà, je trouve que dans les mélodies et même dans ça lie à la fois l'écriture et les mélodies. Il y a un côté un peu émo que j'aime beaucoup. Et puis des phrases, voilà, un lion, ça peut se faire pull-up par des renards. Comprendra qui veut. Je comprends pas forcément, mais je trouve ça très intéressant d'écrire ça.
Et je crois que tu voulais aussi en parler parce qu'il a eu une actualité en tout cas.
Tout à fait. En fait, donc, il a été, en début de semaine, là, son projet Fissure de vie, qu'il avait sorti en 2022, vient d'être certifié disque d'or. Et pour fêter ça, donc il sort un petit projet de 6 titres qui sont des exclusivités qu'il avait teasées parfois en réseau, parfois uniquement en live quand il avait fait son concert à l'Olympia, etc. Qu'il a réuni pour remercier, je pense, son public de le soutenir depuis tout ce temps, dans un projet qui s'appelle Lika, qui est donc un projet 6 titres. Voilà, où il y a 6 exclusivités et qui sera aussi une bonne porte d'entrée, je pense, pour ceux qui veulent découvrir Sau la Lune.
Très bien, merci beaucoup Camilo James, mais c'est pas fini, car c'est l'heure de la question qui tue. Comme d'habitude, la question qui tue, elle est très simple. Très simple. Allez. Est-ce qu'Eminem est le plus grand rappeur de tous les temps? Eh oui, tout ça pour t'amener là.
Tout ça pour arriver à cette question. On ne laisse pas de blanc. Je pense que vieillir, c'est accepter que Jay-Z est le meilleur rappeur de tous les temps, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. La musique, c'est très subjectif. Je crois que moi, je garderai toujours Eminem en numéro 1 dans mon cœur en tant que rappeur.
May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here.
Donc le plus grand rappeur de tous les temps, pour Camulot James.
Pour moi,
c'est Eminem, même si on parle d'un rappeur qui a eu un prime artistique qui a duré à peine 4 ans, mais c'est pas
vrai,
le sujet.
C'est vrai,
on n'est pas là pour juger les goûts et les couleurs.
Non, mais je me suis forcé à me remettre dans ma période à mes 15 ans qui écoute pour la première fois Lose Yourself dans la chambre, que comme tu le disais, va chercher tous les disques, tous les freestyles inédits à l'époque d'Imul, tu vois, sur
c'est
internet.
C'est une époque.
Tout ce prime là a été trop important dans ma trajectoire, pile à l'âge que j'avais à ce moment-là, et ça représentait trop. Mais bon, c'est une question sans fin.
Évidemment, et c'est ça qu'on adore.
Un bisou à Sean Carter s'il passe par là.
Merci beaucoup en tout cas, Camulo James. Merci d'avoir été présent pour parler d'Eminem. Le documentaire Stans est disponible sur Paramount+. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur l'émission. Une émission préparée par Alexia Lacour, Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, Laurent Baudouin. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous recevons le youtubeur, le créateur de contenu Michou pour sa série Terminal, une série qui sortira vendredi au cinéma et qui sera disponible sur sa chaîne YouTube ce dimanche. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.